Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Du coup, nous sommes en direct, pas ce soir, ce midi, avec Mathieu Thomas. Salut Mathieu, comment vas-tu?
Bah ça va bien. Très content d'être parmi toi et de faire cette interview ensemble.
Eh ben, écoute, moi aussi, je suis vraiment ravi. Comme je te disais, en regardant un petit peu ton histoire, je l'ai trouvée vraiment, vraiment très inspirante. Et je me suis dit qu'on aurait plein de choses hyper intéressantes à se dire. Là, on vient de parler un petit peu de paternité, d'enfants. On a parlé aussi un peu en préparation de professionnalisme et de sport. Donc, je t'avoue que moi aussi j'ai fait un peu comme toi, je me suis forcé à pas trop regarder, tu vois, et à découvrir un petit peu des choses un peu de manière spontanée. Alors forcément j'ai quand même bossé, mais comme je te le disais, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question que je pose, c'est quel est ton premier souvenir de sport?
Alors, premier souvenir de sport, on va dire, c'est plus à la télé, et je le dirais avec mon père, c'était pendant les JO d'Atlanta, si je dis pas de bêtises, la Dream Teams avec Jordan. Ouais. Ah, moi, voilà, moi, mon sport d'enfance, c'était le basket. Et je me souviens de ces vacances, on va dire, ratées, en quelque sorte, malgré nous, en quelque sorte. Mon frère a eu la panicite à l'hôpital avec ma mère et on s'est retrouvé avec mon père dans un Formule 1 à côté de l'hôpital. Et du coup, bah, il y avait ces jeux le soir hyper tard. Moi, je devais être assez jeune. J'arrive pas à calculer 96. Ouais. Je crois que j'avais 12 ans. Okay. Je pense que je veillais hyper tard. On regardait des matchs de basket de la Dream Team à 1h du mat dans le pauvre, peut-être, hôtel miteux avec mon père. Mais voilà, j'ai des super souvenirs par rapport à ça. Et en tout cas, c'est mon souvenir qui revient là. Mon premier, je pense. Okay. Vraiment sportif à fond.
Ah, ben, enfin, l'équipe des Bulls et la NBA à l'époque c'était incroyable quoi.
Ouais. Et puis là c'était vraiment la Dream Team au jeu.
Bien sûr,
donc vraiment il y avait tous les idoles et quand on suit le basket à cette époque-là, je pense que c'est la meilleure équipe du monde qui a jamais eu en quelque sorte, parce que même aujourd'hui au jeu, il y a pas cette Dream Team qu'ils ont recréé, et même l'équipe B était encore plus forte que les autres équipes, donc c'était assez fort.
Ouais, mais ils étaient absolument incroyables. T'avais Jordan, t'avais Pippen aussi.
Pippen, Johnson. Barkley. Ouais. Qui d'autre? Larry Johnson.
Il y avait quelques joueurs des Celtics aussi.
Larry Bird.
Ouais, je pense Bird, non? Il devait faire partie de la team.
Ouais, carrément. Ouais. Il était dedans aussi, ouais. Carrément.
Ouais, mais j'ai quelques bons souvenirs. En plus, j'ai terminé il y a pas si longtemps The Last Dance.
Ah.
Donc, j'imagine que tu l'as.
Je l'ai vu aussi.
Longtemps, ouais. Mais je sais pas pourquoi j'avais laissé les épisodes sur la dernière saison et. Ou sur les derniers playoffs, tu vois, j'avais laissé les deux derniers épisodes un peu de côté. Mmh. Et là, je les ai regardés il y a pas longtemps. Et ça donne
des frissons, cette série aussi, je trouve. À moi qui ai vraiment adoré et idolâtré toujours, en tout cas, mais ce joueur à l'époque. Aujourd'hui, c'est même un grand businessman, et pour moi, c'est un modèle aussi. Si tu veux, on pourra reparler de cette reconversion. Je veux pas couper tes premières questions là-dessus, mais en tant que sportif, après il y a une reconversion, et lui, c'est un vrai businessman, comme d'autres encore, même dans le basket, parce que je pense à Tony Parker.
Ils le sont tous.
Ils sont vraiment très très bons là-dedans. Je pense qu'il y a une très bonne école au niveau du basket là-dessus, sur des reconversions après carrière.
Bah même, tu vois, si on peut prendre encore plus de hauteur au-delà du basket, où ça reste le sport aussi, je crois, où les athlètes sont le plus en moyenne, tu vois, parmi les athlètes professionnels, si tu regardes la première division, je crois que c'est le sport où les joueurs sont le mieux payés, encore mieux que dans le football. Donc ça aide aussi dans la reconversion un petit peu.
Mais je trouve que dans le foot il y en a un, mais
c'est
moins des businessmen. Peut-être que culture américaine, comme tu dis.
Parce que j'ai eu la chance d'interviewer Laura George et Kevin Tilly, qui sont tous les deux passés par des cursus américains. Et effectivement, en fait, dans les cursus universitaires américains, malgré en fait le fait qu'ils soient dans le sport de haut niveau, on leur dit tout de suite qu'il faut qu'ils aient une double carrière, qu'ils soient tout de suite qu'ils pensaient très jeune le double projet et pensaient très jeune la reconversion, et avoir un peu cette dynamique un peu investissement, un peu business, aussi personal branding, communication, et je trouve qu'elle est assez intéressante et qui est peut-être, je sais pas ce que tu en penses, on peut rentrer direct dans le vif du sujet, mais peut-être qu'en France on est un tout petit peu moins éduqué encore par rapport à ça. On demande pendant très longtemps, j'ai eu l'impression qu'on demandait aux athlètes de haut niveau d'être à fond dans leur sport et de pas trop se concentrer sur autre chose pour avoir peut-être l'esprit tranquille, et on commence à s'ouvrir, tu vois, sur le double projet, sur
moi je trouve qu'au contraire on est vraiment à fond sur le double projet.
Ok. Ouais, donc, ouais, ça a bien.
Parce que je m'entraîne aussi avec des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans, dans un pôle espoir. Et oui, on a même au niveau du badminton cette problématique de se dire, en fait, on sait que la carrière elle a une fin, et donc le double projet est hyper important. On l'a. Par contre, la difficulté qu'il y a, c'est on le sait qu'il y a ce double projet, mais comment on peut accompagner? Et pour moi, elle est là, la problématique, et surtout la différence qu'il peut y avoir entre différents sports. parce que l'école, c'est une chose, mais après, c'est derrière, tu parles de personal branding, de marketing, et ça, c'est hyper important. Et je dirais que même parfois, certains sports le font mieux que d'autres, même déjà juste le sport en lui-même. Donc après, comment lui, l'athlète, doit bien vendre sa marque et son sport, et il doit à la fois vendre son sport, il doit à la fois vendre son histoire, il doit vendre aussi son projet, son histoire à lui.
Ouais.
Donc et ça, c'est pas si simple. On l'a du côté entrepreneur, et moi, mon parcours, il est un peu particulier, hein, parce que j'ai commencé le sport de haut niveau à 30 ans. Donc c'est hyper tard, et avant j'étais aussi un peu dans l'entrepreneuriat, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, du coup j'ai travaillé avant, je travaille dans beaucoup de projets innovants, et j'ai cette culture là de me dire je sais à quel point le marketing, l'entrepreneuriat est important. Et aujourd'hui, c'est là, j'ai essayé de le mettre, tout ce que j'ai vécu avant, au profit de ma carrière aussi professionnelle sportive. J'apprends d'autres choses. En fait, pour moi, sportif de niveau, on apprend énormément sur soi. Moi, aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses.
Plus qu'avant, quand t'étais pas sportif de haut niveau, tu
carrément,
dis...
carrément. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une écoute de mon corps qui est puissance 1000 par rapport à avant. Je pense que quand je travaillais, même, j'écoutais pas forcément mon corps sur la fatigue, sur le stress que je pouvais emmagasiner. On parle de burn-out au travail et ainsi de suite aujourd'hui. C'est typiquement ça. C'est qu'on est investi, on est passionné dans notre travail, on fait les choses à fond, mais on n'écoute pas son corps.
Ouais.
Et le fait d'être sportif de niveau, mon corps, c'est mon arme, c'est ce qui me permet de réellement faire c'est mon outil de travail.
Ouais.
Donc je dois l'écouter puissance 1000. Dès que j'ai un bobo, si je dois être performant même sur un terrain, il faut que j'ai ce temps de repos, cet équilibre alimentaire, ce temps de sommeil hyper important. Parce qu'on peut avoir plein de choses, des super kinés, on peut avoir plein de choses autour de nous. La chose la plus importante pour tout être humain, le sommeil et bien s'hydrater. Ouais. Ah, c'est 80% de la récup.
Ouais,
et on pense clair. Pas à ça. Et après, derrière, on a des appareils, des électro-simulations, des massages, des choses comme ça. Mais ça représente une faible chose. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit avoir cette rigueur-là pour être performant, en quelque sorte. Et ça, je l'avais pas quand j'étais dans le milieu business, entreprise en quelque sorte.
Okay.
Je faisais pas trop attention à l'heure que je me couchais. Bref, c'était un peu tout ça. Aujourd'hui, je sais, hein, j'ai des écarts, mais je sais que je peux le payer. C'est-à-dire que le lendemain, je sais que je pourrais pas être à fond dans mon entraînement et ça va me coûter.
Ouais. Je fais une petite parenthèse. Après, j'ai une petite question pour savoir si t'écoutes aussi ton esprit, parce que t'as beaucoup parlé de corps et de forme. Mais je fais une petite parenthèse. Comme je te le disais, tu vois, moi, j'accompagne justement des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises et des gens, même d'un point de vue plus global, un peu les leaders de demain ou les gens qui veulent être les leaders de demain. C'est mon métier. Et souvent, on me demande quel est le meilleur investissement à faire selon toi. Et moi, je leur réponds, c'est bête, hein, mais je leur réponds. Un lit, des très bons rideaux et un bon masque de sommeil. Et les gens me regardent, mais pourquoi ? Enfin, tu sais, c'est trop bizarre. Je voulais mettre plusieurs milliers d'euros dans un super ordinateur, dans une application de productivité ou dans un téléphone ou machin. Et je leur dis, mais non, en fait, tu passes 8 heures par jour dans ton lit. C'est là où ton cerveau se reconstruit, ton corps se reconstruit. Si t'as un sommeil tout pourri, tu seras le lendemain, tu seras pas la meilleure version de toi-même. Et donc ça me fait plaisir que tu le dises aussi. Tu vois que 80% de la récup, c'est s'hydrater et dormir, quoi. C'est vrai que on l'oublie trop souvent, mais c'est la base, quoi. C'est vraiment
ça. Et puis après un bon lit, mais après là, du coup, c'est le corps là-dessus, mais t'as l'esprit et la tête.
Ouais.
Et là-dessus, je pense que c'est la méditation.
Ouais.
Bizarrement, et je suis pas un gros adepte de ça, j'ai du mal réellement à prendre ce temps. Moi, j'ai un problème avec le temps, peut-être aussi avec ce qui s'est passé jeune, parce que j'ai eu un cancer à 17 ans et que du coup on se dit en fait la vie elle peut être courte, donc moi j'ai pris ce pas en me disant maintenant j'ai plus de temps à perdre.
Ouais.
Et depuis ce moment-là, je pense que moi, ça a fait un gros... C'est ce déclic que j'ai eu, c'est de me dire, en fait, la vie peut être courte à n'importe quel moment, donc il faut vite, en faire un maximum de choses. Donc, je suis un hyperactif, mais pas hyperactif de naissance ou c'est de ma nature, c'est de me dire il faut tout le temps que je sois en activité, il faut tout le temps que je fasse quelque chose, parce que si je ne fais pas quelque chose, j'ai l'impression de perdre du temps ou bref, je fais ma petite thérapie.
non mais c'est hyper intéressant, je voulais vraiment qu'on aborde ce sujet, donc vas-y, mets les pieds dans le plat quoi.
Non mais voilà, donc
parce que tu parles de déclic, mais j'imagine que il y a eu plein d'autres choses qui sont passées dans ta tête à ce moment-là quoi.
Oui, il s'est passé plein de choses. Après, quand je parlais vraiment de l'esprit, de cette méditation, je pense qu'aujourd'hui, si je voulais juste clôturer, cette partie sur le sommeil, c'est d'avoir ce bon lit, comme tu disais. Ouais. Donc, on a le côté matériel, mais après, ce côté méditation et de se dire aussi, ce qui est très important, c'est d'écouter son corps, de dire là, je suis fatigué. On a le droit d'être fatigué. On s'autorise à se reposer, à rien faire même. Ouais. Je me rends compte aussi j'ai besoin d'être créatif. Il y a des moments où je le suis pas. Il faut l'accepter. En fait, c'est cette acceptation qui est très dure à avoir. Je pense on se met toujours des objectifs très hauts et même moi je m'en mets. Et à chaque fois on se dit on n'a pas le droit à l'erreur ou il faut pas s'arrêter. On est toujours on est dans le combat. Il faut se relever ainsi de suite. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir s'écouter. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et des jours sans, il faut aussi se dire, mais c'est pas grave. Ouais. Aujourd'hui, on va faire moins, mais ça va nous permettre de repartir plus fort peut-être demain. Ça peut peut-être aussi nous aider à éviter d'avoir la tête dans le guidon tout le temps. Et on a cette impression de perdre du temps.
Ouais.
Et en fait, pas du tout. Mais j'ai l'impression d'être vieux en disant ça, d'avoir pris 10 ans parce que c'est vraiment j'ai l'impression que ça peut être mon père qui me dit ça ou ma mère parce que c'est des phrases très sages à dire et on le fait jamais. Et moi-même, si je m'écoutais, je me dis ouais bon, il a raison à moitié en quelque sorte, mais mais c'est vraiment important ouais. Et je m'en rends compte de plus en plus et le sport de niveau m'a permis de comprendre ça.
Ouais mais je suis assez d'accord. Est-ce que tu penses que même de manière générale, tous les domaines dans lesquels on peut tendre à de l'excellence ou aspirer à de l'excellence, ça t'amène à beaucoup plus t'écouter justement pour pouvoir justement maintenir cette excellence et maintenir un peu ce chemin de progression, tu vois, parce que tu peux le retrouver aussi, je pense, tu vois, dans un boulot ou même par exemple dans la parentalité, tu vois, dans la parentalité, c'est un truc, ça te prend énormément de temps, énormément d'énergie, et si t'as envie ou si t'es un peu dans cette démarche de vouloir être un meilleur père, il y a aussi des moments où tu te dis, ou enfin je sais pas pour toi, mais en tout cas moi je me dis, ce moment-là, faut m'écouter. En fait, maintenant je serai pas un bon père, en fait. Donc il faut que j'aille typiquement faire ma petite séance de méditation de 5 minutes et dans 5 minutes je serai un meilleur papa, tu vois. Je sais pas si t'as philosophie un peu sur ce sujet-là justement de ce que le sport de haut niveau t'a apporté et est-ce que c'est transposable peut-être à d'autres domaines de ta vie ou
ah, carrément, je pense que c'est totalement transposable et par rapport à la question de dans l'excellence. Je pense que dans tout domaine d'excellence ou quand on doit aller chercher vraiment une performance, c'est essentiel de s'écouter.
Ouais.
Et que du coup, je pense même que toutes les grandes personnes qui ont réussi, c'est aussi des personnes qui se connaissent très bien.
Ouais.
Mais dans n'importe quel domaine, ça peut être la politique, ça peut être un grand chef d'entreprise, ça peut être, là on parle de sommeil, ainsi de suite. Eux, bah on les voit, ils vieillissent très vite. On voit un président au début de son mandat et à la fin de son mandat, au-delà de je pense la fatigue qu'il a emmagasinée et aussi ce stress, tout ce poids sur les épaules, on s'en rend bien compte. Ouais. Donc il s'est pas écouté. Ah, il a pas le choix, il a pas le choix parce qu'il est au service de tout le monde, de tous les Français ou de tout le monde de son pays. Mais voilà, c'est ça. Et donc quand on va chercher l'excellence, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et pour être meilleur père ou ainsi de suite, c'est la même chose, je pense.
Ouais, c'est la même démarche.
Ouais. C'est la même démarche et oui.
T'as des petits exercices ou des, je sais pas, des petits rituels justement pour apprendre à s'écouter ou pour développer l'écoute de soi.
Pour moi, il y a beaucoup de choses sur l'acceptation, c'est-à-dire aussi et sur le ressenti des émotions. C'est-à-dire que c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup travaillé en prépa mentale. On est dans un match. En quelque sorte, on a des parasites autour de nous, des émotions positives, négatives. Ouais. Mais l'objectif, c'est que ces émotions qu'on va ressentir à ce moment-là ne doit pas avoir un impact sur la performance qu'on doit appliquer. Donc, l'émotion qu'elle arrive, déjà une chose qui est hyper importante, c'est de l'accepter. La première chose, qu'elle soit positive ou négative, c'est de l'accepter. Après, c'est si elle est négative, on va essayer de l'accompagner à la sortie, ouais. Mais toujours avec bienveillance. Encore une fois, il faut être bienveillant avec soi-même, avec les émotions, cette peur, cette fatigue. On a le droit de ressentir cette fatigue, cette émotion où on n'est pas bien. On l'accepte, de dire « Ok, je suis pas bien, je vais pas jouer à ce moment-là ». Par contre, c'est là où il faut avoir cette intelligence de dire « On ne joue pas, je vais pas jouer un point, j'accepte cette émotion ». Et du coup, je l'accompagne en lui disant, ok, sauf que c'est pas le moment. Là, je suis dans un moment qui est déterminant pour moi. C'est un match important, ou même pas important, mais voilà, il faut faire cet exercice de dire, c'est pour plus tard, et focus sur l'objectif. L'objectif, il est quoi? C'est quoi la tactique? Qu'est-ce qu'il faut se mettre en place et repartir sur quelque chose de concret.
Ouais.
J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Non, mais c'est super intéressant parce que là, on est vraiment dans ta tête entre deux points, tu vois. Et,
ouais.
Et tu vois, en plus, on est en pleine période de Roland Garros et il y a beaucoup de similarités. Tu vois, c'est un sport de raquette, un sport de duel, c'est un sport de points jusqu'à la balle de match. Rien n'est joué. Et
on parle souvent de même. Là, tu parles de ça, mais tu sais, la peur de gagner. Quand on arrive sur les derniers points, les émotions sont plus les mêmes.
Ouais.
Et encore cette perte de lucidité, et ainsi de suite. Et c'est là-dessus où il faut rester vraiment focus, de se dire c'est un point comme un autre. La tactique, elle doit pas changer. Tous les points que j'ai fait avant, ça a marché. Donc, il faut garder cette lucidité, surtout après 1h30 de match, moi pour moi, c'est ça. Mais au tennis, c'est 2h, 3h. Alors, c'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes temporalités, mais.
Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, c'est pas en termes d'intensité, c'est pas la même chose. Il y a peut-être plus de repos aussi dans le tennis. Mais juste pour comparer, c'est ça. C'est qu'à la fin, il y en a où ils arrivent à sauver des balles de match, où ils arrivent pas à terminer un point parce que. Ils sont déjà à penser au futur.
Ouais.
On dit tout le temps qu'il faut toujours penser à l'instant présent. Le passé, bon bah c'est de toute façon c'est trop tard. On a perdu le point, ainsi de suite. On peut être frustré, on peut être pas bien sur le point passé. Ça changera rien.
Ouais.
C'est passé. On peut pas changer ce qui s'est passé. Et le futur, en se disant on se voit gagner, on se voit sur la plus haute marche. On se dit ça y est, j'ai gagné. Bah c'est aussi un danger parce que on n'est pas sur cet instant présent à se dire là on est sur le point, la tactique, la chose importante. Donc moi, en tout cas, tout ça je l'ai vraiment appris sur moi-même et qui est totalement transposable dans la vie de tous les jours, que ça soit avec nos enfants ainsi de suite. On peut, si on prend l'exemple de la parentalité, où on peut se dire que tout ce qui est passé, on a fait, ah, je regrette, j'ai pas fait ça avec mon enfant ainsi de suite à l'époque. C'est le passé, on peut pas revenir en arrière, donc vivons l'instant présent. Et puis on pense aussi au futur, ah quand il sera grand on fera ça, nanana. Et en fait on loupe aussi ces instants précieux, et je pense que c'est aussi ça qui m'aide dans ma vie de sportif de haut niveau, de ce que j'ai vécu, d'essayer de le transposer à la fois dans ma vie de famille, de me dire il faut que j'arrive à un maximum vivre cet instant présent, de lâcher prise, d'accepter aussi ces émotions où ça va pas, ça crie dans tous les sens, et ainsi de suite. Ils sont pas bien, il faut être à leur écoute. Essayer de leur transmettre ça. Alors pour moi, j'ai aussi on a ce rôle maintenant en tant que papa de devoir transmettre, tout ce qu'on a vécu. Et en même temps, eux aussi, ils doivent apprendre de leurs erreurs. Je pense que c'est un bon sujet aussi, là-dessus, de leur transmettre et je fais un parallèle.
Soi.
Ouais, l'écoute de soi, l'estime de soi.
Ouais.
Pour moi, est hyper important. Ouais, les valeurs que j'ai envie de transmettre moi à mes enfants, elles sont là. Je veux qu'ils aient une confiance en eux extrême, que qui que ce soit leur dise quoi que ce soit. Ils se disent, non, moi, je suis une belle personne, je suis une bonne personne. Et rien ne peut m'arriver, rien ne peut m'atteindre. Pour moi, c'est la grande force déjà de tout champion. On pense qu'ils ont un ego surdimensionné, mais pas du tout. Alors peut-être, je dis pas du tout, mais
pour certains,
ils ont peut-être des égos très. Et je pense avoir un ego assez fort, mais parce que j'ai une confiance en moi dans ce que je suis capable de faire, qui est très forte. Et plus je fais de choses, et plus cette confiance elle monte. Et plus on arrive à accomplir de choses et plus elle monte aussi. Il faut commencer, ça c'est certain, mais on va y aller étape par étape, projet par projet, défi par défi. Et plus ça va aller, plus ça va monter. Je pense qu'il y a aussi mes parents qui m'ont transmis ça depuis le plus jeune âge, que je travaille pour moi, que je dois évoluer pour moi. Tu sais qu'on dit ramène-moi des bonnes notes, mais non, c'est pas pour nos parents qu'on ramène de bonnes notes.
Bien sûr.
C'est pour soi. Et moi, ça, on me l'a transmis dès le plus jeune âge. Et j'essaie aussi moi de passer aussi le relais maintenant en disant que à chaque fois qu'ils font quelque chose, c'est pour eux qu'ils doivent essayer aussi.
Ouais.
Qui doivent essayer, qui vont échouer. Le nombre de fois quand je leur dis mais j'y arrive pas, je dis mais non, essaye, continue. Mmh. Et à un moment tu vas y arriver. Et puis en plus quand on est enfant, honnêtement, je trouve qu'on a une facilité à se corriger, à faire des choses très vite et d'y arriver, et qu'on perd très vite adulte. De se dire on essaye une fois et on fait non, c'est pas possible, c'est impossible, c'est trop dur, on n'y arrivera jamais. Et en fait on a cette naïveté enfant de dire j'y arrive pas, mais on a nos parents qui nous poussent, qui nous aident, ainsi de suite, qu'on perd peut-être adulte.
Ouais.
Et y a des choses aussi dans la vie qui fait qu'on perd confiance.
Ouais.
Y a des traumatismes, des choses comme ça. Et donc voilà, la chose pour moi hyper importante à avoir, c'est cette confiance en soi, essayer de la retrouver et trouver cette passion. Si on arrive à voilà les deux choses que j'essaie d'inculquer aux enfants, c'est d'avoir confiance en eux et d'être passionné par quelque chose. Mmh. Moi, je suis un grand passionné de plein de choses. Et les passions, elles changent au fur et à mesure de ma vie. On me dit souvent qu'est-ce que je vais faire plus tard ou qu'est-ce que tu vas faire après ta carrière. J'en sais rien. je sais que j'irai dans quelque chose où je serai forcément passionné par quelque chose.
Ouais.
Je sais que l'entrepreneuriat, ça sera quelque chose parce que ça fait partie. J'aime créer, j'aime innover. Et puis je découvre aussi des choses sur le marketing, sur le business aussi en lui-même. Et je trouve qu'il y a plein de choses à apporter aux gens. J'aime bien transmettre et j'aime bien aussi apporter des choses, solutionner. C'est un peu mon côté ingénieur là-dessus. Trouver des inventions, des choses comme ça. Et en fait, on peut inventer plein de choses, des concepts, pas forcément que physiques. Donc c'est un peu tout ça. Je pars dans tous les sens là, mais
non mais c'est génial. Écoute, j'adore et puis peut-être enfin sur la partie entrepreneuriat, j'ai lu un très bouquin récemment. Alors j'ai oublié le titre, chez Mon Mi, qui est très intéressant, qui dit que justement la casquette de l'entrepreneur, c'est à la fois être un visionnaire, donc quelqu'un qui a envie d'innover, qui a envie d'aller de l'avant et de résoudre des problèmes compliqués. Donc t'as une curiosité intellectuelle et une stimulation intellectuelle qui est très forte. Donc c'est un tiers le visionnaire, un tiers le manager, donc c'est l'humain, transmettre, tirer vers le haut, et le dernier tiers c'est le gestionnaire, c'est-à-dire un peu plus être capable de un peu de contrôler, de voir un petit peu les coups d'avance, aussi de surveiller. Et du coup, en fait, il y a plein de gens qui sont très curieux, qui osent pas forcément se lancer, alors qu'ils ont ça, en fait, tu vois, cette curiosité et cette envie de créer, ils l'ont. Et du coup, c'est un petit peu un de mes combats de tous les jours aussi de le transmettre. Donc moi, je suis sûr que si t'as déjà conscientisé tout ça et t'as l'air de te connaître très bien et d'avoir cette confiance en toi qui te dit que t'es capable de le faire, enfin, je suis sûr que tu vas te régaler, quoi.
Mmh.
Et sur la confiance, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Alors, t'as mis le terme confiance en soi à côté du terme ego. Faudrait regarder la définition exacte de ego et tout, mais la confiance en soi, c'est surtout, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais avoir confiance en ses qualités, tu vois. Si toi, justement, tu me dis, moi, je suis un peu ingénieur, j'adore résoudre des problèmes et créer. La confiance en soi, pour moi, c'est le fait que rien ne puisse t'en faire en douter. Même si t'échoues, même si des gens te disent l'inverse. Et les gens, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, dans les pays latins, on interprète très mal la confiance en soi, en fait.
C'est même péjoratif, c'est pour ça que
je parlais
d'ego, parce que du coup, l'ego est peut-être un peu péjoratif et quelqu'un de trop sûr de lui, on se dit, mais on a cette image aussi, nous, de Français, un peu supérieur.
Ouais.
En fait, je me sens pas supérieur aux autres. Je suis pas là à me comparer aux autres. Mmh. Je suis là à me dire moi, je sais ce que je vaux. Et quand tu dis juste avant, on connaît ses forces. Moi, je dis aussi, je connais mes faiblesses et j'en ai pas peur. Et je trouve aussi très bien et d'oser montrer ses faiblesses. J'avais vu une conférence là-dessus d'une personne qui disait la plus belle chose qu'elle ait compris et qu'elle était fière d'elle, c'est d'avoir accepté et de montrer aux autres toutes ses faiblesses. Aujourd'hui, on pense qu'il faut cacher ses faiblesses, faut se montrer fort aux yeux de tout le monde.
Surtout dans le sport. Surtout dans le sport, je trouve.
Et encore. Après, il faut pas montrer la fatigue, faut pas montrer que l'autre peut nous dominer en quelque sorte sur un match, mais on est dans un duel, donc c'est encore autre chose. C'est un jeu, hein, réellement. Ah, on parle de duel, mais il y a un jeu sur le terrain.
Il y a une médiatisation de l'athlète aujourd'hui qui est très tournée vers la force, le fighting spirit, tu vois. Mm-hmm. Et tous les grands icônes un peu qui ont été choisis ont un espèce de masque, tu vois, je trouve.
Je trouve que c'est vrai, et en même temps, de trop médiatiser sur ça, ça montre qu'au final, c'est des surhommes. Mais non. Ça reste des personnes qui ont des doutes. On montre pas ça, on montre jamais ça, et je trouve que c'est une erreur. Parce que après un grand échec sportif, on n'est pas bien, on pleure. On est au fond du trou, on se dit quoi, jamais on y arrivera. On a ces sentiments, on est humain. Ouais. La seule chose, c'est que on a aussi cette autre voix dans notre tête et aussi cette force et cette persévérance qui nous dit OK, on a le droit de craquer, c'est humain. Sauf que demain, on va se relever, on va y aller plus fort, on va apprendre de nos erreurs et on va y repartir, on va recommencer. Et c'est ça pour moi qu'il y a comme différence entre un sportif même très très bon et un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il va avoir plus d'échecs que le sportif lambda. Parce qu'il va tout le temps continuer. Et bizarrement, hein, si tu vas voir même des grands, grands, grands champions, alors il y en a qui ont connu moins d'échecs que d'autres parce qu'il y a aussi le talent qui fait ça. Mais moi, j'ai encore plus de reconnaissance avec des sportifs qui ont commencé et qui ont pas fait de résultats, mais qui sont là pendant 15-20 ans. Ouais. Parce que il y a pas cette gratitude en plus d'avoir les résultats, mais tous les jours, ils sont là à l'entraînement, ils continuent, ils se relèvent et ils se disent « Non, moi, je crois encore en moi et je sais que je peux y arriver. » Et j'apprends surtout à chaque fois. Quand je suis sur un match et que je le perds, alors on a toute cette grande phrase et bien connue de Nelson Mandela, c'est qui dit que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ah ouais, elle est très belle et elle est très vraie. Mais si on doit vraiment le mettre dans le concret et tous les jours, c'est qu'à chaque fois que j'ai perdu un match, il faut pas que je reperde de la même manière, parce que si je le fais, c'est une erreur. C'est pas un échec. L'échec pour moi est autorisé. Parce que si on est au final, même un entrepreneur, on va échouer, on va se casser la gueule, on va rentrer sur des domaines qui ne vont pas. Mais encore une fois, on va dans l'échec, mais on apprend de cet échec, on corrige les choses pour progresser. Et tous les jours, on apprend. Ah, l'échec, il est là, c'est juste, j'ai appris que ça n'a pas marché du premier coup. Ouais. Un grand champion, oui. Il y en a qui ont jamais connu l'échec, qui ont jamais connu les blessures. Mais à la première blessure ou au premier échec, c'est le drame de leur vie.
Ouais, il y en a quelques-uns, hein.
Et du coup, il y en a, ils font des burn-out où ils disent, j'arrête ma carrière après tout ça. Et il y a l'autre sportif qui a jamais gagné, il a gagné, hein. Mais à l'échelle du haut niveau, bah, il en faut qu'un meilleur. Donc, avec tous ces gens qui s'entraînent, il y a des deuxièmes, il y a des troisièmes, il y a des quatrièmes. Et c'est tous ces gens-là, je trouve qu'il est hyper important, de montrer aussi.
Ouais.
Parce que ça reste des grands champions qui ont pas forcément les résultats qui sont pas tout le temps sur la première place, mais qui travaillent aussi dur, et je trouve qu'ils ont encore plus de mérite. C'est fou à dire.
Non, mais c'est vrai.
Parce qu'ils sont pas là-haut.
Un gras, quoi.
Et comme des entrepreneurs, on monte toutes ces success stories de personnes qui ont réussi, qui ont fait.
Qu'on levait des fonds, qu'on vendait leur boîte.
C'était. On montre ces personnes-là comme des stars et qui ont réussi, mais tous les autres qui ont échoué peut-être à rien ou ainsi de suite, ils ont appris sur leur première boîte, ils ont monté une deuxième, ainsi de suite, et il faut pas perdre espoir. Moi, pour moi, ce que j'apprends aussi du sport de haut niveau, et pour moi, un sportif de haut niveau est un grand entrepreneur par la suite, tout simplement parce qu'il a appris à échouer, mais à jamais abandonner pour toujours continuer. Et au final, un entrepreneur, c'est ça. Ouais. Un chef d'entreprise, c'est un sportif de haut niveau. Il n'utilise pas son corps pour faire, mais plutôt son esprit. Et au final, lui, il utilise plus son esprit, mais il faut qu'il écoute son corps. Et moi, j'utilise mon corps, mais il faut aussi que j'utilise mon esprit pour gagner. Donc, c'est pas le même degré, Mais au final, pour moi, on a les mêmes skills, on a les mêmes compétences quand on va aller chercher l'excellence. En tout cas,
je suis tout à fait d'accord avec toi. On dit souvent dans l'entrepreneuriat que la première qualité nécessaire, c'est la résilience.
Ouais. Voilà. Donc, mais si on parle de résilience, c'est exactement ça. Ouais.
Donc, tu vois, et quand tu parles effectivement de cet athlète de haut niveau qui n'a peut-être jamais gagné, mais qui s'est entraîné tous les jours. Et qui n'a pas eu la récompense, tu vois, de la récompense du titre ou la récompense peut-être d'autres récompenses. Il y a aussi la médiatisation, il y a aussi il y a un peu l'argent aussi. Tu vois, on entendait il y a pas longtemps Roger Federer parler de sous quand on lui demandait mais pourquoi est-ce que vous refaites un tournoi. Bah il dit mais c'est très simple, il y a $1 million si je le gagne, c'est quand même enfin c'est une source de motivation nécessaire, enfin et même suffisante pour au moins tenter ma chance. Et justement tu vois, c'est tous ces athlètes qui ont pas ça, je trouve que bah, c'est encore plus beau, ouais. C'est encore plus et tu penses que il faut que la passion soit encore plus forte pour justement que ça dure 15 ans, je veux dire, quelles sont les ressources que peut avoir un athlète qui n'a pas forcément les victoires dans sa catégorie, dans son sport.
T'as trouvé le mot, hein. C'est la passion, c'est obligé. Ouais. On se fait tellement mal tous les jours à l'entraînement, en quelque sorte, mais on aime ça.
Ouais.
On aime, je dirais pas qu'on aime, alors on aime se faire mal quand même.
Ouais.
On aime, on est un peu maso parfois. Quand on va dans des extrêmes, surtout dans le sport, oui, on est un peu maso. Parce qu'on se fait vraiment mal, mais on a cette passion de notre sport, on a notre passion de ce qu'on fait, et si on l'a pas, je pense pas qu'on puisse durer. Et c'est comme tout dans chaque domaine. C'est pour ça que je disais que pour mes enfants, la confiance en soi et la passion, peut nous emmener très très loin et très très haut. Et l'argent, oui, est important parce qu'on est dans un milieu la vie est faite qu'on a besoin d'argent. Et là, tu parlais de Roger Federer qui parlait d'avoir 1 million. Et juste là, j'aimerais aussi moi pousser mon petit coup de gueule sur le handisport.
Il faut qu'on parle de handisport.
Non, mais par rapport au handisport, parce que si je prends l'exemple du tennis, quand je vois qu'un sportif de haut niveau tennis valide va gagner sur un tournoi 1 million et que à Roland Garros le même tournoi en handisport, je crois qu'on est autour d'une centaine d'euros ou des choses comme ça, c'est pas la même chose. Et pourtant ouais. Les sportifs ils s'entraînent de la même façon. Alors il n'y a pas la même concurrence depuis le début parce qu'il y a moins de personnes en situation de handicap, donc ça c'est clair. Mais par contre, il y a une différence après pour les personnes qui font ce sport qui est vraiment extrême. Et et moi, dans mon sport, je gagne 0, réellement.
Ouais.
Je me considère comme un sportif de haut niveau, mais amateur. Tout simplement.
T'as pas eu de prize money quand t'as fait des podiums
Non, pas dans mon sport. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas.
Ok.
Et quand tu parles de passion tout à l'heure, ouais, voilà. C'est, pour moi, c'est ça qui est le plus important. J'ai pas choisi ce sport pour gagner de l'argent. J'ai choisi ce sport parce que j'ai adoré ce sport, parce qu'il me plaisait. Sinon, j'aurais fait du foot. Si je voulais gagner de l'argent réellement et j'aurais persévéré là-dedans, après ça veut pas dire que j'aurais réussi parce qu'il fallait que je sois passionné par ça. Je le regarde à la télé, ça me va très très bien. J'étais pas bon avec mes pieds, beaucoup plus doué avec mes mains, donc du coup voilà, j'ai fait c'est plutôt ces sports-là. Et ouais, et tout ça pour dire que au final la passion est importante et que donc ce petit coup de gueule quand même sur sur le fait que bah d'un sportif handisport aujourd'hui il va pas pouvoir vivre aujourd'hui réellement par le sport.
Ouais.
Donc je me considère comme sportif amateur parce que je n'ai pas d'argent qui découle de mon sport. J'utilise mon sport pour faire des conférences, pour parler du handicap, pour parler de mon histoire, pour essayer de sensibiliser les gens, et aussi bah d'enseigner. Là tu parlais de manager tout à l'heure, mais voilà, c'est comment des managers peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, comment on doit leur parler, et moi ce qui revient souvent c'est performance. au final. On est tous là dans une société à vouloir être performant, et comment, en situation de handicap ou pas, on peut devenir performant, comment un manager doit accompagner son équipe ou ses collaborateurs à être performants, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Donc voilà, c'est tout ça. Et donc, moi, j'essaie d'accompagner, et mon travail est à côté pour vivre de ma passion. Je m'entraîne tous les jours, mais à côté, pour vivre et pour payer le loyer et les factures, il faut forcément que j'ai un job à côté, mais j'utilise quand même mon sport pour ça.
Ouais. Ouais. Mais je vois très bien, ouais. Je vois très bien du coup, c'est une vitrine,
Voilà, c'est ça.
C'est quelque chose qui te donne un peu une légitimité, qui te permet d'avoir une casquette que tu vas réutiliser justement pour pouvoir faire passer tes messages et pour pouvoir trouver plus là des opportunités qui peuvent te rémunérer.
Carrément, moi je pense que j'ai cette chance aussi, en étant sportif de haut niveau, comme tu dis, c'est d'être qu'on me donne plus facilement la parole. Même aujourd'hui, je pense que j'aurais pas été sportif de haut niveau, on n'aurait pas cette conversation ensemble. Donc moi je trouve que j'ai aussi cette chance, j'utilise ce statut pour aussi véhiculer ce que je vis, mais toutes les choses que j'ai à transmettre. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme tu disais, des entrepreneurs, qui partagent la même chose, qui font aussi du sport, qui font des triathlons, qui font même des fois du sport à haute dose, encore plus que moi en quelque sorte. La seule chose, c'est que moi j'ai eu ce projet paralympique, et depuis mes 30 ans, depuis que j'ai 30 ans, je me suis lancé dans ce projet paralympique. Aujourd'hui, j'en ai 37 et j'espère y arriver pour Tokyo. Ouais.
C'est pour très bientôt, et t'as plein de raisons d'y croire. Et donc on va toucher du bois, je sais pas où est-ce qu'il y a du bois ici, mais on touche du bois. Et moi j'avais une question peut-être à te poser, notamment sur la fulgurance que t'as pu avoir sur tes performances quand t'es arrivé justement à commencer à jouer au badminton. Il me semble que t'as mis 2 ans pour presque participer au championnat du monde et avoir fait un premier podium, ou 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça.
J'ai même fait, dès ma première année, les championnats du monde. En fait, ce qu'il faut voir, ouais, c'est que... je vais reprendre ta question, mais en même temps, ça peut pas être intéressant, c'est aussi de retracer un peu ma vie par rapport à ça.
Vas-y, ouais, en fait,
si tu veux.
Depuis le début, je voulais le faire, je me suis dit, non, mais on va trop revenir en arrière ou pas.
Je pense que c'est un bon moment. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, à 17 ans, on me diagnostique une tumeur cancéureuse.
Endroit?
Au niveau du bas-ventre. Donc, cette tumeur, elle est au niveau du bas-ventre. Elle est au-dessus du psoas, donc c'est le muscle fléchisseur de la hanche, pour les gens qui ne sont pas sportifs. encore une chose où j'ai beaucoup appris sur moi et sur mon corps, c'est que à force d'être blessé, maintenant je connais beaucoup de choses sur mon anatomie. Je m'y intéressais pas forcément avant. Et donc du coup, cette tumeur, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon nerf, le nerf crural, donc c'est le nerf qui alimente la cuisse. Qui passe dans cette tumeur, et pour m'enlever la tumeur, ils sont obligés de sectionner le nerf, et ça va me laisser une paralysie à la cuisse. Donc j'ai plus de sensibilité, j'ai mon muscle qui est à zéro, j'ai pas de problème physique réellement sur la jambe, mais c'est le fait que le nerf soit coupé, et donc j'ai plus cette le quadriceps donc est à zéro, donc je peux plus l'utiliser. Et donc j'ai cet handicap depuis mes 18 ans.
Comment tu l'as vécu?
Le recul, en fait, mon cancer, je l'ai hyper bien vécu. Alors, c'est fou à dire, mais 17 ans, je me dis, qu'il peut rien m'arriver, mais...
Non, parce que c'est 20 ans en arrière, tu vois, les traitements étaient pas les mêmes.
C'était des bons traitements. Je pense qu'en France, on a cette chance aussi. Moi, j'étais suivi à l'Institut Curie. Je sais que, en plus, en étant à Paris, j'ai cette chance d'être dans les meilleurs hôpitaux. On a vraiment cette chance en tant que Français, carrément du monde, pour être vraiment bien soigné. Donc j'avais des traitements très très lourds quand même, parce que mais je l'ai vécu comme 17 ans, j'ai rien vécu dans ma vie, je peux pas mourir.
Ouais.
Donc j'avais pas cette c'est même bizarre à dire, c'est au moment où j'ai eu ça, je me suis dit, ah cool, voilà un gros défi. C'est fou de dire ça, je dirais, tiens, et le mec, il est un peu maso, mais je me suis dit, j'ai un super défi à affronter, ça va ça va un peu me mettre au pied du mur en me disant, voilà, est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis quelqu'un de si fort que ça? Moi, j'avais une bonne estime de moi, mais est-ce que je suis fort à pouvoir vaincre un cancer? Et donc, du coup, dans ma tête, je me dis, allez, on va combattre ça. Par contre, l'handicap, c'était un peu plus douloureux parce que je m'y étais pas préparé. Je me suis dit, je vais battre le cancer, ça, c'est certain. Mais le handicap, j'avais pas compris qu'au final,
Parce qu'on te le dit avant.
On me l'a dit avant l'opération, mais j'ai pas écouté. C'est-à-dire, ouais, vas-y, enlève la tumeur. Ouais, vas-y, ça y est, maintenant c'est bon. Et en fait, je découvre ça. Bah, je suis en salle de réveil où je suis réveillé. Et à ce moment-là, c'est ma mère qui m'annonce ça, et donc je suis intubé, je peux pas réagir non plus. Ouais. Je sais qu'elle me le dit. La seule chose de mémoire qu'elle m'a raconté, c'est que je pleure. Elle aussi, donc c'est un moment hyper émouvant entre nous deux, douloureux. Et il y a aussi une chose que m'a dit mon médecin juste avant, juste après l'opération, c'est qu'il m'a dit que je pourrais plus marcher normalement et je pourrais plus courir. Moi qui étais sportif, je me suis dit mais c'est pas cool. T'es en train de me plomber le moral en plus. Et aujourd'hui, je lui dis merci parce que mon caractère, je sais pas s'il avait décelé ça, mais peut-être, mais mon caractère, c'est je déteste, mais vraiment, que les gens me disent ce que je peux pas faire. Et j'ai un point d'honneur, au contraire, à tous ces gens qui me disent, et on en a plein autour de nous, qui disent, t'y arriveras jamais, t'y arriveras pas. Moi, ces gens-là, ils m'aident, en quelque sorte. Parce que je voulais dire, alors, pour certains j'ai aucune considération, mais des gens qui ont une considération à tes yeux et qui disent t'y arriveras pas, je lui dis mais toi je vais te prouver que je vais pouvoir faire quelque chose. Donc ce médecin là qui m'avait sauvé la vie, je lui dis mais j'avais un respect pour lui.
T'avais déjà très jeune ce truc là de.
Ouais,
de...
moi mais c'est en moi depuis, je pense, depuis tout jeune.
Parce que moi je l'ai construit avec le temps. Moi ça me plombait, je me disais ok, les vieux ou les plus âgés, les plus expérimentés doivent avoir raison. Ou ceux qui l'ont déjà fait doivent avoir raison. Et c'est avec le temps que je me suis dit, mais en fait, c'est leur expérience, leur histoire, leur formatage. Mmh. Et je suis assez fou, assez ambitieux et assez créatif pour contourner le problème qu'eux, ils n'ont pas compris, peut-être, tu vois.
De toute façon, on n'est qu'une histoire de perception. Ouais. Chaque personne a sa perception de quelque chose. Et vu qu'on va le regarder d'un autre œil, donc on a une perception différente, on va résoudre différents problèmes. Ouais. Deux personnes ne vont pas voir le même problème de la même façon. Donc, on peut avoir des retours d'expérience de nos vieux, de nos ancêtres, ainsi de suite. On apprend de tout ça parce qu'on va pas réinventer la chose tout le temps. On va utiliser leurs inventions, les choses comme ça. Mais à nous de
changer les statuts.
Ouais, voilà, c'est exactement ça.
Et du coup, ce médecin.
Donc, ce médecin me dit ça, et moi, je sors, je demande à mes kinés en centre de rééducation de typiquement, je ne veux surtout pas que ça se voit. Je veux réapprendre à marcher, je veux normalement, et je veux réapprendre à courir. Et parce qu'il m'avait dit ça. Parce que je mettais un point d'honneur en disant maintenant je peux être un peu comme tout le monde. Et cette chance qu'il m'a donnée, c'est que j'ai réappris à marcher normalement, ça se voyait plus. Donc je considère que j'avais à ce moment-là un handicap invisible. Il se voit si on regarde bien ma jambe, il y a pas de problème. À la plage, on pourrait voir que j'ai un handicap. Et encore, c'est parce que on va regarder vraiment un œil vraiment attentif sur moi. Et on dévisage pas forcément les gens, ou en tout cas on va pas analyser le corps comme ça des gens, donc ça se voit pas. J'ai vraiment cet handicap invisible, et cet handicap je l'ai caché de mes 18 à mes 30 ans, tout simplement parce que j'avais réussi à compenser. Donc c'était une très bonne chose, sauf qu'à 30 ans je fais une crise de la trentaine. Une bonne crise en mode mais est-ce que je pars dans la bonne direction, est-ce que mon métier me plaît toujours, est-ce que je suis toujours passionné par ce que je fais, bref, des bonnes crises existentielles au moment où on se pose plein de questions. Est-ce que je veux ça toute ma vie? Et en fait, je me pose surtout une question. Qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce que moi, je peux apporter de différent par rapport aux autres? J'avais l'impression d'être une énième personne dans ma société à faire un énième projet, que tout le monde pouvait faire la même chose. Donc perte de confiance en soi, ainsi de suite. Donc voilà, quand je dis j'ai une forte estime de moi et de confiance en moi, là je la perdais, donc j'avais besoin au contraire de me ressourcer, de retrouver des choses. Et je me rends compte que ce qui me différencie de tout le monde et ce qui me suis passé, c'est que j'ai eu un cancer et j'ai un handicap. Mais je l'exploite pas.
Ouais.
Du tout. Je l'exploite pas, je le cache même. Je dis, mais c'est dommage. Mmh. Et ce cheminement qui se fait dans ma tête, et à un moment, je me dis, c'est peut-être c'est le tueur, mais parce que j'ai vu les JO de Londres, on a médiatisé des gens qui faisaient du sport en paralympisme, le handisport. J'étais très sportif et pourtant, dès que j'ai eu mon handicap, j'ai pas pensé au handisport. Et ce lien, cette connexion, je l'ai pas du tout eu. Mmh. Parce que je n'avais pas de modèle. Réellement. Et aujourd'hui, c'est aussi, là, je fais une aparté, mais je trouve que c'est hyper important de médiatiser, ouais, des personnes, d'avoir des modèles. On devrait avoir des modèles. Parce que quand il nous arrive, ouais, quelque chose, on aimerait avoir un modèle ou une personne qui dit, il a vécu comme moi cette chose, mais il s'en est sorti, donc il peut y avoir une lueur en quelque sorte. Ouais. On est au fond du trou. Et ce modèle-là, nous aide à se dire, à se raccrocher à des choses. Moi, je pense à Théo Curin, qui, quand lui il a eu sa méningite, qui est quadriamputé et qui a peur de l'eau. Mais réellement, aujourd'hui, il est nageur paralympique, il avait peur de l'eau, il avait cette phobie, mais il a vu un quadriamputé, Philippe Croison, qui traverse, ouais, la Manche à la nage. Et il s'est dit, c'est possible. Et pourtant, j'ai peur de l'eau. Il va le rencontrer et dit, ouais, je suis comme toi, j'ai 4 membres en moins, on est pareil, c'est trop bien. Et je trouve ça fou. Moi, je trouve ça fou, c'est que on a réussi et Philippe a réussi à se médiatiser. C'est génial. C'est lui qui l'a fait. C'est pas les autres qui l'ont médiatisé. C'est lui qui a réussi à réaliser de grandes choses. Il a réussi à vendre son histoire. On parle de personal branding, on parle de tout ça. Donc lui a réussi à faire tout ça. À intéresser les médias, à parler de lui, et ça a donné l'espoir à un jeune comme Théo Curin, qui aujourd'hui est sportif paralympique, qui lui aussi aujourd'hui inspire de nouvelles générations. Donc on transmet, c'est un bâton de relais, et ainsi de suite, et c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi aussi j'interviens beaucoup dans les écoles. Donc là, j'ai fait un gros aparté.
Non, mais franchement,
important parce que c'est
parce que t'as raison, parce que tu vois, là, on est en 2021, mais en 2000, enfin, si tu regardes un petit peu le paysage de l'handisport, il est.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Il est quasiment désert, tu vois. Il y a peu de personnalités médiatiques.
Il y en a peu.
Il y a même pas un média qui était dédié au handisport, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Benjamin Louis, tu vois, qui a créé Cœur Handisport, oui, par exemple.
Mais qui lui se bat à créer un média, ouais, pour mettre en lumière tous les sportifs handis. Et c'est génial ce qu'il fait.
Bah ouais.
Mais ouais.
Mais il y a 5 ans, ça n'existait pas, tu vois.
Heureusement qu'il l'a créé. Ouais. Il y en a d'autres, il y a En route pour Tokyo qui c'est d'autres médias aussi parallèles qui essayent chacun à leur échelle à vouloir médiatiser tout ça. Après, les médias, moi je les rencontre, hein, je sais pourquoi vous le faites pas. Ils font, mais c'est le business. Nous on montre des programmes, on médiatise des athlètes peu connus et ainsi de suite. La seule chose, c'est que on vend pas de papier. Quand on vend une histoire comme ça, on vend pas. Et on vend plus.
Ouais, mais c'est
quand je fais un article, c'est peut-être leur boulot, mais.
Moi, je pense, hein.
Alors, c'est ils ont peut-être aussi ce boulot.
Packager, tu vois.
Ouais, peut-être le mieux packagé dans un.
Typiquement, moi, c'est ce que je fais avec ce podcast. Tu vois, effectivement, peut-être que y a des gens qui vont pas aimer le badminton, mais qui vont adorer ce que Mathieu, il dit sur la performance, ce qu'il dit sur la parentalité, ce qu'il dit sur le handicap, ce qu'il dit sur la confiance. Et c'est la façon avec laquelle tu le présentes, en fait, tu vois.
Je comprends, donc. Il y a peut-être aussi une simplicité pour eux, parce que c'est vrai que ce qu'ils me disaient, c'est que quand on fait un énième article de Cristiano Ronaldo ou de Messi, et bah ce papier se vend mieux qu'une histoire qu'on vend. Donc, il y a peut-être à eux de faire plus d'efforts pour vendre des choses. Mais c'est aussi le business. Et donc, j'entends et je suis pas là pour cracher là-dessus. C'est peut-être aussi aux gens, chacun a son rôle à jouer. C'est-à-dire que aussi les gens doivent se dire, c'est clair qu'en achetant un journal, quand on parle de Cristiano Ronaldo, ainsi de suite, c'est bien, mais quand il y a une nouvelle histoire d'un nouvel athlète ou une nouvelle histoire, il faut aussi les encourager et il faut y aller, quoi.
Okay.
Donc peut-être d'essayer d'avoir cette solidarité. Et je pense encore une fois, j'ai ce travail-là d'exemplarité et de modèle à avoir. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui va avoir un cancer. Qui peut avoir un cancer ou pour rebondir, qu'est-ce qu'il doit faire? J'aimerais bien être ce modèle pour eux, leur dire mais regarde, tu peux réaliser de grandes choses encore après tout ce qui t'est après tout ce que t'as vécu. Et puis il y a des moments où tu vas douter. Pardon.
Ma voix déraille. Ouais. Mais juste après j'ai envie de te parler de Rising Phoenix et enfin du film en tout cas. Mais
génial.
Je vais rebondir dessus. Vas-y, termine ta phrase.
Non, moi, je sais même plus ce que je disais avant. C'est en rail, donc vas-y, y a pas de souci.
Non, mais tu vois, typiquement, moi, le plus beau film de sport que j'ai vu, c'est pas Les Yeux dans les Bleus, c'est pas The Last Dance, c'est pas ces films-là, c'est vraiment Rising Phoenix. Tu vois. Et je l'ai, il y a peu de temps, j'étais avec des amis un soir et on devait regarder un film, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et à un moment, j'aurais dit, j'ai envie de vous plonger dans mon univers, j'ai envie de vous plonger. C'est des gens qui étaient pas très sportifs. Mmh. Et j'avais envie de leur montrer selon moi, le film ou le documentaire, hein, ça dépend comment on le voit, qui incarne le plus le sport et l'humanité qu'il y a derrière le sport. Et ils ont tous fondu en larmes, tu vois. Donc, et peut-être que, le film aurait pu être plus médiatisé, qu'il aurait pu avoir plus de marketing autour de ce film. Mmh. Mais tu peux faire des chefs-d'œuvre, que t'aies un caillou blanc ou que t'aies un caillou noir, si t'es un bon sculpteur, tu peux en faire un chef-d'œuvre, tu vois. Mmh. Et pour moi, c'est un peu quand tu me parles des journalistes aussi, c'est plus facile de mettre une photo de Cristiano Ronaldo et un titre choquant avec un papier un peu inintéressant dedans, que d'avoir une super belle histoire, un super beau truc, une super belle production. Et de se poser la question, maintenant, quelle est la photo que je vais mettre dessus? Quel est le titre que je vais mettre dessus? Comment je vais le distribuer? Parce qu'en fait, ça leur fait sortir de leur zone de confort. Parce que la zone, tu vois, quand tu parles de papier, quand on parle de journaux, c'est très facile. Leur canal marketing, c'est d'être dans un kiosque visible avec une photo et trois mots, tu vois. Mais s'ils se posaient la question de se dire, on change ça, tu vois. On change cette façon avec laquelle on va toucher les gens. On change les canaux via lesquels on va communiquer, on change les codes. S'ils se posaient cette question-là et qu'ils se remettaient un peu en question, ils pourraient faire des grandes choses. Ils pourraient le faire. Mais ça nécessite, encore une fois, tu vois, de casser cette barrière de « c'est pas possible, ça vend pas, ça vend moins, machin ». Non, c'est juste, faut essayer différemment en fait. Si t'essayes exactement la même chose que t'essayes, c'est mon coup de gueule à moi, tu vois.
Ouais.
Si t'essayes un canal différent, ça passe. Et tu vois, typiquement, désolé, je ramène le truc au podcast et à moi, mais je vais aller interviewer des grands champions français que les gens connaissent, mais c'est sur un support, c'est sur une application. Tu t'abonnes, t'es notifié toutes les semaines quand t'as un nouvel épisode. Et peut-être, je sais pas, peut-être que ton épisode sera une semaine après quelqu'un de hyper médiatique. Et les gens qui vont s'abonner vont se dire mais en fait j'aime bien ce que fait Bart et je vais me permettre d'aller découvrir. Et moi j'ai pas des plus mauvais chiffres quand c'est des gens que personne connaît, quoi. Et bien au contraire, et parce que t'as une espèce de viralité, que ça reste dans le temps, donc ça peut se transmettre. C'est pas un papier, tu vois, un papier. Ce qui est vendu le 10 juin, c'est plus vendu le 11 juin, tu vois, et ça reste pas dans le temps, tu vois. Donc moi, j'ai passé mon coup de gueule, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est le devoir justement des journalistes, des boîtes de prod aussi d'enclencher une nouvelle vague, tu vois, d'histoire, de brand content, de personal branding, et que quand on veut, on peut, quoi. Et c'est possible de le faire. C'est vraiment possible de le faire. Et si un Théo Curin ou un Philippe Croizon arrive à le faire tout seul, Alors ils le font en utilisant les médias.
Ah, ils le font pas non plus tout seuls. C'est ça qui est bien aussi. Et là, ils là-dessus, que je...
avec leur équipe, voilà. C'est leur vision, tu vois.
Oui,
c'est,
oui, complètement.
C'est leur vision, c'est leur histoire. Je sais plus combien Théo Curin il a de followers sur Instagram.
Enfin, beaucoup, c'est... je pense.
Beaucoup, tu vois. Énormément. Plus de 100 000, tu vois. Si lui il arrive à le faire, s'il arrive à intéresser les gens sur son sujet, sur sa personnalité et sur tous les sujets et sur tous les coups de gueule qu'il a envie de passer et tous les messages qu'il a envie de passer, bah, ne va pas me dire qu'un grand média ou qu'une grosse boîte de prod n'est pas capable de le faire aussi. Tu vois,
c'est complètement. T'as tout à fait raison.
Donc c'est juste une question de challenge. c'est juste une question de challenge. Et moi, bah, c'est typiquement par rapport à ce que tu dis quand. Quand toi, ton médecin, il t'a dit c'est pas possible, tu remarcheras pas. Et ben moi, quand effectivement je parle à certains journalistes ou certains rédacteurs en chef ou directeurs de publication et qui te disent c'est pas possible ce que t'as envie de faire, et ben je me dis peu importe le temps que ça prendra, mais je le prendrai et je leur donnerai tort. Voilà. Et bon, ouais, petit coup de gueule passé sur ma vision du.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et en fait c'est aussi ça, c'est ce que tu disais, c'est de bien s'entourer.
Il est 30, je te préviens si jamais okay. tu.
Ouais.
Mais ouais, tu disais ouais bien s'entourer.
Ouais, bien s'entourer et c'est aussi important, c'est-à-dire que on connaît tous cette phrase de dire que seul on va vite, ensemble on va plus loin. C'est aussi ça, c'est-à-dire que. J'ai pris conscience en faisant aussi mon sport de haut niveau que j'étais pas limité mais j'ai que 24 heures tout seul, je peux pas tout faire.
Ouais.
Et que j'ai besoin de m'entourer, j'ai besoin de trouver un manager, j'ai besoin de trouver des gens qui me mettent dans ma com, j'ai besoin de trouver des gens qui sont aussi sensibles à mon projet, qui sont aussi passionnés que moi dans ce combat que j'ai. Et que ils disent moi en fait on va changer les choses, on va ouais. essayer de réinventer, on va essayer de transmettre, on va essayer de trouver des choses pour apporter d'autres choses. Donc là même moi je passe mon annonce avec toutes les personnes même qui écoutent et l'équipe est jamais terminée, on va dire ouais. plus on sera nombreux et ça veut dire que le success story il y a pas de limite. De toute ouais. façon c'est fou à se dire mais
c'est quoi tes besoins d'ailleurs excuse-moi si je t'ai
coupé. Ouais mais c'est même fou à se dire c'est que là je reprends aussi une chose que j'ai appris beaucoup en tant que sportif de haut niveau c'est que les limites qu'on se fixait alors, au final si on n'arrive pas à avancer c'est vraiment nous qui nous mettons nos propres limites plus ça va et plus je me dis mais en fait il faut se limiter à rien. On connaît encore cette phrase de se dire bah si tu veux aller dans l'espace vise la lune. Là j'ai en train de la casser cette image là, mais de dire qu'il faut viser les étoiles pour atteindre au moins la lune. Mais c'est exactement ça. Ouais. Il faut vraiment pas se mettre de limites possibles. Alors c'est facile à dire. Il faut être objectif en se mettant des objectifs atteignables
et ainsi de suite.
Mais par contre, derrière le rêve, il y a pas de limite. Du coup, c'est ce que je me dis même moi dans ce que je veux créer, dans ce que je veux transmettre. Aujourd'hui, on est par rapport à mon handicap que j'ai et que je considère invisible. Aujourd'hui, j'ai un chiffre qui est fort. Et que je n'avais même pas conscience à l'époque. Quand on parle d'handicap, on pense souvent au fauteuil.
Ouais.
On pense à des personnes qui sont visibles. Même là, je te parlais de Philippe Croizon, je te parle de Théo Curin. Si on parle dans le handisport, de grandes personnes dans le handisport, on peut parler de Michael Jérémias aussi, qui était porte-drapeau au Jeux de Rio, qui est en fauteuil. Et en fait, on médiatise aussi, parce que c'est facile, des personnes qui sont en handicap visible. Sauf que ça représente que seulement 20% des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc toutes ces autres personnes, tout à l'heure tu me parlais de ta maman qui a une sclérose en plaques, voilà, elle a un handicap invisible. Et en fait en France, on est 10 millions à avoir un handicap invisible. C'est énorme ce chiffre.
Ouais.
On est 10 millions à être en plus. Et quand je rencontre ces gens-là, parce que je fais des séminaires, parce que je les rencontre dans les entreprises, la plupart des gens, en plus, quand ils ont un handicap invisible, ne se sentent pas assez légitimes. Ils ont le sentiment que vis-à-vis d'autres personnes handicapées, ils ont pas forcément d'handicap. Et donc du coup, ne l'accepte pas. Et pour moi, c'est un autre combat que je suis en train de mener en dehors des terrains. C'est essayer déjà d'une de changer le regard sur le handicap là-dessus, pour montrer que le handicap, en fait, à 80%, il est invisible. Donc il faut changer ça. Qu'une personne, quand elle sort d'une place d'une place handicapée et qu'elle est pas en fauteuil, eh ben c'est pas qu'elle vole la place d'un handicapé. Elle est peut-être handicapée parce que ça représente 80% des gens qui sont en situation de handicap. Donc
bien sûr, ouais.
Donc il y a des gens, encore une fois, qui vont regarder derrière le pare-brise pour voir s'il y a bien la carte, qui vont s'autoriser à se dire mais t'es pas handicapé, un peu ce côté justicier en se disant mais je fais bien. Et je trouve ça bien, en quelque sorte, parce qu'il faut aussi défendre ça. Il y en a qui abusent. Mais en fait, les gens qui abusent, c'est une minorité. Peut-être que je suis dans un monde de bisounours.
Non, mais
c'est comme
raison.
Les gens qui fraudent aux impôts, les choses qui fraudent. Il y a une majorité de gens qui fraudent pas. Et c'est clair qu'on pointe toujours du doigt des gens qui fraudent, qui font pas bien. Mais au final, c'est pas ça. C'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter sur les autres et de se dire, en fait, il faut être bienveillant avec eux et de se dire, en fait, bah, j'ai envie de changer vraiment ce regard sur le handicap en se disant, le handicap invisible est hyper important. Il faut qu'on arrive à se dire qu'une personne qui a un handicap et qui se voit pas, c'est aussi une personne handicapée. C'est ça qui est important.
Ouais, puis il y a plein de maladies.
Voilà,
qui aujourd'hui peuvent être, enfin, qui sont considérés comme des handicaps, tu vois.
Mais complètement, qui fait qu'on est, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est hyper important pour moi à changer vraiment ce regard-là et que les personnes l'acceptent, s'acceptent avec cet handicap parce que même moi je l'ai caché pendant très longtemps. Je dis pas que j'étais pas heureux. J'ai vécu des moments très heureux sans accepter mon handicap. Je dis juste qu'aujourd'hui, le fait que je l'ai accepté, ça m'a ouvert encore plus et je suis encore plus heureux. Parce que j'ai pu me libérer, parce que j'ai pu aujourd'hui vivre des choses que j'aurais jamais pu vivre. J'étais sportif. Jamais j'aurais pu faire des Jeux Olympiques. J'ai pas commencé aussi jeune comme tous ces sportifs à faire ça. Et aujourd'hui, on m'a donné une seconde chance grâce au handicap pour pouvoir faire des Jeux Paralympiques. Je trouve ça fou. En quelque sorte, voilà, c'est comment
c'est exceptionnel.
De se servir. Après, j'ai aussi cette faculté, peut-être, dans chaque situation, de voir le côté positif. Tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire dans chaque situation. Et là, j'ai vu ça comme ça. Moi, j'ai aujourd'hui de dire que j'ai la chance d'être handicapé. Tout simplement parce que je peux faire les Jeux Paralympiques. Mais j'ai essayé de contourner les choses et à chaque fois que j'essaie de contourner les choses comme ça. En me disant, voilà, j'ai un malheur, il peut m'arriver quelque chose d'hyper grave, j'ai eu le Covid, ou j'ai eu le Covid, je suis enfermé pendant 10 jours, ainsi de suite. Bah, pour moi, d'être enfermé, c'est dur, c'est pas bien. Et après, bah, par rapport à d'autres personnes, c'est moins grave, mais je pense même pas à ça. Je me dis, ok, bon, bah, j'ai 10 jours. En 10 jours, qu'est-ce que je peux faire pour moi, à la maison? Je vais être avec mes enfants, je vais prendre du temps avec eux. Voilà. Après 10 jours, par contre, c'est clair. J'étais très content de pouvoir ressortir et ainsi de suite. Mais voilà. Dans cette situation, ok, dans ce malheur, ce qui nous arrive, c'est qu'est-ce que je peux en tirer positif à chaque fois? Et je pense que c'est ça qui me tire vers le haut.
Ok.
Moi.
Ouais, le temps file et tu m'avais prévenu que t'avais une petite limite de temps.
Ouais, t'inquiète.
Moi, je peux. Je suis gourmand de pouvoir passer encore plus de temps et de pouvoir aborder plein de sujets. Mais le peut-être. Ouais, juste pour terminer sur ton histoire. Enfin, comment est-ce que t'es tombé dans le badminton déjà? Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport-là? Et effectivement, on a parlé d'un peu de comment. Enfin, moi, je suis aussi curieux de savoir comment est-ce que ça a pu aller aussi vite pour toi. Est-ce que t'as mis des choses en place? Parce que, alors, tu vois, on pourra toujours dire, voilà, il y a peut-être moins de pratiquants, il y a peut-être ce sport qui est moins représenté, puis il y a des catégories, et puis voilà. Mais quand même, quoi. Tu vois, c'est waouh. Tu vois, il faut quand même se mettre à fond de, tu vois, pour pouvoir atteindre un tel niveau, quoi.
Pour répondre à ça, et en fait, c'est ce qui me définit, et je pense c'est ce qui peut définir aussi beaucoup de grands entrepreneurs. C'est ce que j'appelle quelque chose qui est très mal vu, en tout cas, c'est l'opportunisme.
Ouais.
On pense que quelqu'un qui est opportuniste, c'est encore un gros mot et c'est pas bien. Moi, je suis opportuniste. C'est juste d'aller à l'endroit où où l'herbe pousse mieux. C'est juste d'avoir un feeling, d'avoir des choses comme ça. Il faut sonder, il faut avoir le regard. C'est comme dans le business, faut aller dans des endroits où il y a une opportunité, il y a un marché, il y a un besoin. Typiquement, j'ai commencé moi le badminton à 28 ans. C'est un sport que j'adorais, qui me plaisait. À 30 ans, je décide de faire les Jeux Paralympiques. En tout cas, j'ai ce projet de faire les Jeux Paralympiques. Je m'intéresse au handisport. Je fais du badminton, donc je regarde, est-ce que ça existe? Et c'est des concours de circonstances. Parfois, on se dit, est-ce que les planètes sont bien alignées ou est-ce qu'on est plus sensible à ça ou ainsi de suite. Moi, je vois ça comme l'histoire devait être écrite comme ça. Ouais. Ils annoncent qu'il y a les premiers championnats de France, qu'il y a eu les premiers championnats de France. Donc moi, je le loupe, mais vraiment de rien. Je m'intéresse parce qu'on en parle médiatiquement au sein de ma fédération. Il dit, il y a les premiers championnats de France. Et moi, ce que je fais, c'est que je contacte le sélectionneur national parce qu'il y a son numéro et je lui dis, en fait, j'ai un handicap, j'aimerais bien pas participer, mais moi, le para-badminton m'intéresse, j'ai un handicap, je fais du badminton déjà. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que j'aimerais bien jouer? Et là, m'invite à un stage avec l'équipe de France.
Mais c'est pas de l'opportunisme, hein, ça, c'est.
Après,
c'est se renseigner, quoi.
Oui, l'opportunisme après derrière, c'est de se dire, en fait, c'est en construction. J'ai choisi ce sport parce que c'est en construction.
Ouais.
Et même là encore, là, on est en 2015, donc c'est même pas encore un sport paralympique. Mmh. On est en 2015. En 2016, ils annoncent que le para-badminton va rentrer aux Jeux à Tokyo. Donc, ils annoncent enfin que c'est un sport paralympique. Et c'est ça, moi, l'opportunisme, c'est de me dire, j'ai ce rêve d'aller aux Jeux paralympiques. Ils annoncent que ça va devenir un sport là-dedans. C'est en construction. Allons-y. Et puis, il y a les résultats aussi. Je vais au premier championnat de France. Je suis champion de France. Donc, je me dis, il y a quelque chose à aller faire. Par la suite, l'année suivante, je fais mes premiers championnats du monde. Pas de résultat. Je viens d'arriver, mais j'échoue pas grand chose. Réellement, on perd au troisième set contre les champions du monde. En huitième, on les aurait rencontrés plus tard. Je pense que j'aurais pu avoir une médaille. J'aurais pu avoir une autre, encore d'autres choses. Une autre ascension, encore peut-être plus haute, d'autres choses. Mais voilà, c'est l'histoire. Ça a été écrit comme ça. Et ensuite, je fais les championnats d'Europe l'année d'après. Et là, on est champion d'Europe avec Lucas. En double et donc c'est top. C'est ce qu'on a loupé au championnat du monde, on l'a en Europe. Après par la suite ils annoncent en fait que il y a pas du double homme en tout cas au jeu, donc on se concentre moins sur cette discipline dans ma catégorie de handicap, donc je me concentre plus sur le simple, lui plus sur le mixte et le simple. Ouais. Et aujourd'hui en fait, c'est des opportunités au fur et à mesure de se dire bon, en fait, moi j'avais pas d'entraînement, j'avais rien du tout. J'ai construit au fur et à mesure les choses. Ouais. Aujourd'hui, si je devais commencer le para-badminton aujourd'hui, ça serait pas la même histoire.
Ah ouais.
Parce que le sport s'est construit. Mon aventure s'est construite au fur et à mesure que le sport grandissait. Ouais. Même une anecdote folle, c'est que
presque
j'ai plus de médailles à mes débuts que maintenant. Et pourtant, aujourd'hui, si je devais me jouer moi-même il y a 5 ans, je pense que je battrais le Mathieu d'il y a 5 ans tellement facilement. Je me croyais fort, mais en fait, j'étais vraiment pas fort. Parce que j'avais pas d'entraînement, j'avais rien. Et aujourd'hui, en m'entraînant...
C'est le niveau global qui a...
Le niveau est monté, tout simplement parce que c'est de rentrer aux Jeux Paralympiques. Et il y a des sports, et il y a des pays qui, eux, le sport est vecteur d'ascension, même au niveau de leur pays et au niveau culturel. C'est ça, c'est-à-dire que le sport va les sortir de leur misère.
Ouais.
Et ils sont en plus en situation de handicap, donc c'est compliqué. Et donc là, ils vont totalement monter. Et là, je parle de l'Asie,
ouais,
typiquement.
Les pays asiatiques, quoi. Thaïlande,
la Chine, ainsi de suite. Aujourd'hui, même eux, c'est certains athlètes, eux, sont professionnels dans leur pays, alors que nous, en France, on l'est pas du tout.
En handisport.
En handisport.
Ouais.
Il y en a, ils sont payés par leur fédération, ils ont des salaires tous les mois pour s'entraîner.
Je suis pas étonné en Thaïlande qu'ils aient mis le paquet sur
Thaïlande, mais moi je pense à l'Indonésie, je pense à l'Indonésie aussi. Voilà, c'est l'Indonésie, on pourrait pas penser, mais le badminton, c'est le sport national et voilà, c'est il y a des grands champions valides et ils veulent qu'il y en ait aussi en côté para, donc ils mettent les moyens pour ça. Je dis pas qu'en France ils mettent pas les moyens, on met aussi les moyens, mais on met pas les mêmes.
Ouais.
Et à nous aussi de nous débrouiller pour rentrer aussi là-dedans. Donc voilà, c'est un combat, mais je trouve que ce combat il est nécessaire aussi. Tout simplement parce que après on sait d'où on vient, d'où la victoire elle est encore plus belle quand on a galéré aussi. quand tout est facile et qu'on a réussi, bah la victoire elle est belle. Mais elle est pas aussi belle que quand on a vraiment galéré. Donc voilà, c'est un peu tout ça.
Non, mais ça me fait sourire parce que c'est on se rend pas compte à quel point les émotions peut-être parfois dans le sport ou même dans le sport de haut niveau peuvent être fortes. Mais c'est ouais parce que justement t'as souffert avant, t'as galéré avant, tu t'es entraîné, t'as eu un parcours du combattant. Et moi je me posais la question, comment est-ce que vous vous êtes rencontré du coup avec Lucas, parce que vous avez quand même été vice-champion du monde, quoi, et c'est quand même pas rien.
On était champion d'Europe ensemble. On n'a pas fait les championnats du monde. On n'a pas eu de titre en championnat du monde. Non, j'ai fait une médaille de bronze, mais c'était avec un Thaïlandais.
Ok.
C'était pas une paire français. Et avec Lucas, on s'est rencontré lors de ce premier stage en équipe de France. Lui, il était déjà en équipe de France.
Ok.
Moi, je l'étais pas. Et puis, on s'est rencontré là. Et c'est une opportunité parce que son handicap et le mien pouvaient être compatibles pour une discipline de double.
Ok.
Voilà, c'est pour se dire, lui est le numéro un français dans sa catégorie, moi pareil, faisons cette paire et voyons si on peut faire des résultats, et c'était le cas, donc voilà, après, par la suite, on verra s'il y a encore d'autres opportunités dans ce domaine-là, rien n'est fermé encore aujourd'hui, mais...
Ok, ça marche. Voilà. Pour la fin, j'ai trois petites questions que je pose à tous les invités. Alors bon, là, t'en as déjà cité, t'es déjà un plus ou moins répondu dans l'interview, mais c'est pas grave. Mais c'est si tu pouvais être une petite voix et te dire un truc à toi-même, au Mathieu, peut-être justement qui se réveille après son opération, et si tu pouvais te dire un truc à ce moment-là, qu'est-ce que tu pourrais te dire? Qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce qu'il aurait besoin de savoir en fait, le Mathieu à ce moment-là?
Ce que je pense qu'il serait important, c'est juste par l'exemple, parce que en fait ce serait moi ce que je mettrais à Mathieu à l'époque, c'est des images de sportifs, parce que j'étais sportif, d'images de sportifs qui réussissent et qui puissent l'inspirer, en fait, de trouver plein de gens, plein d'images de personnes qui pourraient l'inspirer, de montrer les choses en fait. De montrer qu'en fait c'est possible, mais même pas besoin de mots, des histoires de personnes ou des photos ou cette émotion aux Jeux paralympiques quand tu parles de Rising the Phoenix. Pour moi c'est ça, quand tu dis que les gens pleurent après ça, c'est les émotions par quoi ils sont passés et ils ont renaît de leurs cendres. C'est exactement ça. Donc de montrer les émotions de ces gens-là, ça me pousserait aujourd'hui, j'aurais gagné du temps. J'aurais pas eu les mêmes histoires, parce que j'aurais pas fait la même histoire non plus. J'ai commencé à 30 ans, et à 30 ans, j'ai une certaine maturité, en quelque sorte, pour accomplir des choses. J'aurais eu une autre histoire, mais j'aurais commencé en tout cas plus tôt. Et du coup, pour mon corps, ça aurait été un peu mieux, parce que là, quand même, à 37 ans, faire du sport de haut niveau, j'abîme bien mon corps. Je suis encore compétitif. On pense tout le temps... que 37 ans, on pose cette question, mais c'est pas trop vieux, et ainsi de suite.
Là, je vais passer mon deuxième coup de gueule, là, mais...
Mais voilà, et au final, pour moi, il n'y a pas d'âge. Et même, la chose qu'il faut aussi dire, et que je donne comme information, c'est que la moyenne d'âge des personnes qui sont médaillées au jeu, donc c'est la moyenne d'âge, mais des médaillés seulement, donc vraiment la crème, les trois meilleurs, c'est 39 ans. Et pourquoi cet âge est aussi élevé, Déjà d'une, il y a des gens qui sont encore à 50 ans en fauteuil, qui font encore les jeux et qui sont médaillés, tout simplement parce que...
Attends, juste pour donner un peu de contexte, c'est sur les Jeux Paralympiques ou sur les Jeux
Sur les Jeux Paralympiques, la moyenne d'âge des médaillés, c'est 39 ans. Donc moi, à 37, je me dis, je suis bien, je suis dans je suis encore dans la moyenne, je suis même en dessous.
Dans la fourchette, ouais.
Et en fait, tout ça pour dire, c'est que, en fait...
Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont... Enfin,
il y en a qui ont 50 ans, il y a des jeunes aussi...
Il y a des jeunes qui ont 50 ans, qui gagnent,
Qui gagnent, tout à fait. Et donc, c'est pas la même chose. La fin de carrière pour un sportif paralympique n'est pas la même que pour un sportif olympique. Déjà, on commence pas au même âge. Et en fait, c'est un temps donné. Et ce qui se passe aussi, c'est que 85% des personnes en situation de handicap, ça arrive au cours de leur vie.
Bien sûr.
Donc il y a ceux de naissance où jeune on peut avoir ce projet de faire des jeux. Tout à l'heure on parlait d'Arnaud, lui c'est de naissance et donc du coup il a commencé tôt les Jeux Paralympiques. Je crois qu'il est à sa 4e ou 5e là, ça va faire les 5e peut-être. Donc c'est fou.
Ouais.
Et je crois qu'il est même plus jeune que moi, donc tu vois comme quoi.
Oui, il est plus jeune que toi.
Et donc du coup, ce que je veux dire c'est que ça arrive au cours de la vie. Et moi, si je prends mon accident ou mon cancer à 18 ans, dans 17 ans, 18 ans, aujourd'hui j'en ai 37, ça veut dire que ça fait 20 ans. C'est comme si j'avais 20 ans avec mon nouveau corps.
Ouais.
Donc j'ai dû me réapproprier mon corps, réapprendre des choses, peut-être plus vite ou moins facile, ça dépend. Mais on a dû, donc mon nouveau corps, en quelque sorte, ma nouvelle vie, j'ai 20 ans. Donc 20 ans, c'est pas si vieux que ça pour aller faire des jeux en quelque sorte. C'est comme ça que j'essaie de transmettre là-dessus et cette vision qu'on a sur l'âge.
Mais je voyais pas du tout les choses comme ça, tu vois. Et le fait de recentrer, tu vois, le débat et même l'image sur cette nouvelle vie et ce nouveau corps, ça fait beaucoup de sens en tout cas. Comme tu le dis.
Bon, après, j'ai quand même pas 20 ans, il y a les genoux qui craquent et tout ça, je les ai même à 37, hein.
ça fait partie du jeu, mais j'imagine, mais ok. Bon, après, plus on est âgé, plus on s'écoute aussi et plus on peut avoir
Mes entraînements
avoir des techniques pour durer, quoi, tu vois.
C'est ça, mes entraînements sont plus les mêmes, j'y vais c'est plus frais, c'est moins long mais plus dans l'intensité. Et puis j'écoute mon corps d'autant plus, donc la récup est encore plus importante, c'est rapport à un jeune où la récup j'ai besoin de moins de récup. Quand on avait moins besoin de récup quand on était jeune, on le sait tous, les nuits blanches ou les cuites qu'on avait à 20 ans, on arrivait à les enchaîner. La journée d'après, à 36 ans, bon,
c'est pas pareil.
On fait plus de nuit blanche, quoi. On évite, quoi.
Ouais. L'avant-dernière question que je pose là, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une citation que tu te répètes très souvent? Peut-être un peu plus souvent que les autres, on en a eu beaucoup aujourd'hui.
C'est vrai qu'on les citait pas mal.
mais est-ce qu'il y en a une, peut-être est-ce qu'il y en a une qui t'inspire plus et que les autres?
En fait, j'en ai pas une à chaque fois, j'ai plein de citations et même si ça m'inspire, ça c'est quelque chose. Il y a plein de sites qui sortent des citations là-dessus sur la résilience, sur l'adversité, sur l'audace, sur plein de choses. Moi, tout ça me nourrit, donc j'en ai pas une en particulière. Moi, la seule chose, en tout cas comme skills qui est important d'avoir, moi je l'ai dit, sur l'estime de soi, ça c'est très important. Et après, pour moi, c'est la persévérance et de jamais abandonner, parce que c'est vraiment cette persévérance tu as le droit d'échouer. C'est ça qui est important, tu as le droit d'échouer, mais ce qui est important, c'est de se relever.
Il y a des bouquins ou des films ou des ressources justement sur lesquels tu es allé te nourrir un peu sur ces messages-là et sur ces sujets en particulier.
Oui, il y a des bouquins sur tout ce qui est prépa mental que j'ai pu lire ou même mon préparateur mental. Moi, je suis j'aime bien le contact humain. C'est-à-dire que je suis moins dans la lecture, c'est peut-être parce que ça prend peut-être plus de temps, C'est pour ça peut-être aussi j'ai du mal avec la méditation, avec à prendre le temps pour moi. Moi j'aime beaucoup le contact humain et de transmettre et d'échanger. Je trouve que ça va beaucoup plus vite. Ouais. Donc je suis plus à, dans des échanges avec les gens, à regarder peut-être des séries ou des podcasts, écouter et d'échanger. Donc c'est plutôt avec en ayant des échanges avec des gens que je me nourris et essayer de d'aller voir des personnes hyper inspirantes qui peuvent être même plus jeunes. Je parlais de Théo Curin, pour moi c'est un gamin hyper inspirant qui est même en, à son âge, c'est fou tout ce qu'il arrive à faire. Donc pour moi il m'inspire.
Ouais, faut que j'aille le voir Théo. Mais je suis tout à fait raison. En plus c'est peut-être un petit peu plus vivant, que ce soit film, podcast, livre audio, puis tu peux ça retient pas toute ton attention aussi. Tu peux, comme on disait tout à l'heure, tu peux faire ta vaisselle en même temps, faire tes trucs, conduire et écouter ça. Et écoute, trop chouette. La toute dernière question que je pose, on est en plein dans le thème parce que c'est un petit peu comme un passage de flambeau. En plus, on est la veille de l'élection des porte-drapeaux, non? Je crois pour
je crois France que ça va commencer demain.
Ouais, je crois que c'est demain. Ouais.
On pourra lire le porte-drapeau.
Ouais, trop cool. Et bah là, du coup, c'est un passage de flambeau, mais c'est plutôt un passage de micro. On a cité pas mal de noms et effectivement, je les note. Mais est-ce que il y a une personne un athlète que tu connais ou qui t'a inspiré, que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour un format un peu spontané, libre, sur lequel on peut approfondir autant de sujets qu'on le souhaite.
Comme ça, en fait, je t'ai donné beaucoup de noms de personnes hyper inspirantes pour moi et je trouve par contre qu'ils sont hyper bien médiatisés et ainsi de suite. Ouais. Donc je trouve ça très très bien, mais j'ai plus envie de donner la parole à des gens au contraire qui ont plein de messages à transmettre aussi et qui ont jamais l'occasion de le faire. Voilà, après des personnes, au final à des histoires exceptionnelles, au final même dans le parabadminton ils le sont tous, ouais. Chacun a son histoire, donc moi de ma petite échelle on va dire le parabadminton c'est une petite famille ainsi de suite, pour moi tous sont hyper inspirants, donc tu pourrais tous aller les interviewer, j'ai pas un nom en particulier à donner parce que j'ai envie que tous pourraient être interviewés là-dessus parce que chacun peut apporter quelque chose avec son histoire. Ouais. Si je dois en citer quand même quelques-uns, mais il y a David qui était sportif de niveau, donc David Toupet qui était sportif de niveau et valide un accident de ski et il se retrouve en fauteuil qui va aller au jeu. Son partenaire, ça fait il y a 3 ans, il connaissait pas le parabadminton où il s'initiait, il a pris le chemin avec lui et aujourd'hui il a un talent fou parce que il se qualifie au jeu avec David, donc on parle d'ascension fulgurante, mais lui c'est encore plus spectaculaire. Après il y a des jeunes qui arrivent, Charles Knox qui est une personne de petite taille qui est à Nantes, c'est pareil, il se lance dans ce projet là et c'est assez fou. Après il y a les deux filles, les deux copines, Faustine et Elena, c'est pareil, elles ont un handicap qui se voit pas forcément et elles sont pas légitimes là-dedans et au final elles vont accomplir ce grand rêve peut-être d'aller faire les jeux. Donc voilà, et puis après j'ai un message aussi particulier avec Meryl Lockett en ce moment qui comme moi attend cette qualification pour les Jeux de Tokyo. J'espère qu'il ira, j'espère que j'irai aussi et qu'on ensemble on pourra aller défendre la France. Et en tout cas je voulais en même temps souhaiter une félicitation aux autres parabadistes qui ont été déjà sélectionnés pour les Jeux.
Ouais, voilà. On n'attend plus que toi, donc.
Moi et Meryl, j'aimerais bien qu'on soit tous les deux là-bas.
Ouais, cool. Écoute. Merci infiniment d'avoir cité des noms parce que effectivement, encore une fois, tu l'as dit, c'est des gens qui sont pas toujours mis dans la lumière, sous le feu des projecteurs ou au micro, tu vois, et du coup, même pour un journaliste comme moi, parce que je suis pas du tout journaliste, mais si on va dire, je mets la casquette quelques heures par semaine, et qu'en plus tout à l'heure, je tapais pas sur les doigts des journalistes, mais plutôt sur le système oui. économique des médias. Eh ben, il faut faire vraiment ce travail de recherche et ce travail de recommandation que tu fais là. En fait, c'est hyper précieux parce que surtout si tu me dis qu'ils ont tous des histoires exceptionnelles. Alors c'est vrai que dans moi j'ai compris avec Rising Phoenix que tous les athlètes aux Jeux Paralympiques avaient des histoires absolument, enfin absolument inspirantes et toutes singulières, tu vois. Et t'as pas le parcours du jeune qui va à l'INSEP à 15 ans et puis qui fait 10 ans et puis qui est un peu la voie un peu toute tracée. C'est des chemins beaucoup plus sinueux, beaucoup plus plus compliqués par moment. Et si, enfin, le fait que tu leur donnes la parole, ça m'inspire et ça me fait des recommandations. Donc je te recontacterai en privé et je te demanderai.
Il y a pas de problème, comme tu dis, moi, je pense que toute personne qui a tous les sportifs paralympiques aujourd'hui, pour moi, ils ont toute une histoire extraordinaire. Et je dis pas que par contre les valides n'ont pas non plus ça, hein. Mais
c'est
en
bien
tout
de
cas
dire les valides, vous le dites. Moi j'aime pas ce terme.
Non, mais c'est moi j'ai pas de problème là-dessus, même quand on parle d'handicapé. Je sais très bien qu'il faut pas dire handicapé, veut dire une personne handicapée ou une personne en situation de handicap. C'est comme quand on dit bon allez venez les fauteuils. On dit non, c'est voilà.
J'ai entendu cette phrase.
Et même moi, je le dis, mais pour se moquer, on dit venez les petites roulettes, viens petit canard boiteux, en parlant de moi. Il y a beaucoup d'autodérision, mais entre nous, on se l'autorise, on se le dit. Et je dis entre nous, mais même pas. Peut-être un autre message à dire aussi, mais par rapport à cette confiance en soi et les choses que moi je ne supportais pas, c'est ce regard de pitié ou ce regard de complaisance qu'on peut avoir face à une personne en situation de handicap. Aujourd'hui, je pense que si toutes les personnes venaient nous voir en nous charriant, parce qu'on a une autodérision assez forte, après il y a le tact à avoir quand même, faut pas se moquer. Après il y a cette limite là-dessus entre se moquer et taquiner. Mais pour moi, taquiner là-dessus, ça montre que
bienveillance et malveillance, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est on peut rigoler avec bienveillance de choses ou mais même moi, ça peut m'arriver avec une personne qui est en fauteuil. Il y a une marche, je dis bah désolé, je te laisse là, tu vois. Et t'as pas choisi d'être en fauteuil, mais tant pis pour toi, quoi. Mais et voilà, je le dis avec bienveillance, et c'est juste de montrer là-dessus que ah je suis désolé, tu vois ce regard complaisant, dire tu veux que je te porte, tu veux que je fasse ça, bah en fait ça montre à la personne en face qu'elle est diminuée, qu'elle est pas comme les autres, et au final d'être charriée comme on pourrait charrier son copain à côté parce qu'il est mal habillé ou parce que charrier sur d'autres choses parce qu'on se charrie, et ça c'est un autre regard. Et là-dessus, il faut essayer d'avoir ce regard-là plutôt, bienveillance, mais avec humour, comme si on charriait une autre personne. Il n'y a pas de frein à avoir.
Ouais, et puis au-delà de là, on peut quand même proposer de l'aide de manière naturelle, sans faire sentir qu'il y a une différence avec la personne, quoi. Voilà, est-ce que je voulais que je vous aide, point barre.
C'est ça, et c'était Michael Germias que j'avais entendu aussi là-dessus. Alors moi, je le vis pas parce que je suis pas en fauteuil, mais la plupart des gens, ils veulent les pousser. Déjà, en plus, il y a ce regard diminuant parce qu'ils sont plus bas que les autres. Donc du coup ils sont toujours vus du dessus, ça c'est ça peut avoir un regard méprisant. Donc du coup, mais c'est comme quand on parle à des enfants, on t'apprend que tu te baisses, tu te mets à leur hauteur s'ils veulent comprendre les choses. T'as pas un rapport dominant dominé. Et là-dessus dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose à avoir, d'être à la même hauteur et d'être bienveillant avec ces gens-là. Et ce qu'il disait, c'était que la plupart des gens, avant même de lui demander comment il s'appelait ou ainsi de suite, c'est qu'est-ce qui t'est arrivé. Comme si ce qui définit cette personne-là, c'était son histoire ou pourquoi t'es dans un fauteuil ou pourquoi t'es tout ça. Alors de dire non, déjà je m'appelle Mickaël, tu peux me parler sur
j'ai des enfants,
enchanté, voilà. Mais c'est ce qui me définit, c'est pas mon fauteuil. C'est ce que tu vois. Donc lui, il a cette problématique-là. En tant que personne en fauteuil, essayer de cacher un peu ce fauteuil et de voir la personne qui est derrière tout ça. Et nous, à l'inverse, qui ont un handicap invisible, en se disant, en fait, on est une personne, mais en fait, on a un handicap et personne ne reconnaît cet handicap parce qu'il n'est pas visible. Et on a les deux chemins à aller à l'envers et on n'a pas le même combat et pourtant on est en situation de handicap.
Ok. Mais C'est, tu fais bien de le dire. Tu vois, je suis content qu'on termine, tu vois, l'interview là-dessus, tu vois, sur, non, mais quelques messages aussi et même pour les personnes qui sont valides comme moi, où j'ai pas d'handicap, enfin, j'ai pas dans mon entourage très proche des gens qui ont un handicap moteur, et du coup, bah, c'est bien, tu vois, d'avoir, tu vois, des gens qui en parlent, qui disent librement, ce qui les embête, ce qu'ils aiment pas qu'on leur dise, parce que tu sais, des fois tu copies bêtement ce que tu peux entendre à droite à gauche, ou tu reproduis, ou même tu fais des choses un peu contre-intuitives, donc
ouais, ou ça,
c'est bien de faire ce travail d'éducation aussi, tu vois, je pense.
Mais,
que
pour moi on a un rôle à jouer aussi là-dessus, et chacun, comme toi en tant que journaliste, tu as aussi un autre regard à apporter, ou des choses comme ça, et tout ce qui nous touche et tout ce qui nous fait qu'on est nous-mêmes, ce que je veux dire, c'est on a quelque chose à transmettre, c'est ça qui est la richesse humaine.
Ouais.
Et sans rentrer dans les clichés comme intouchable, où il y a eu beaucoup d'humour autour de tout ça, il y a le film Patient.
OK.
Je sais pas si tu l'as vu, la prochaine fois. C'est l'histoire de Grand Corps Malade.
OK. J'adore.
Donc voilà,
comment il s'appelle, j'oublie son nom. Mais je peux le rencontrer en plus.
D'accord.
J'ai son contact.
Bah top. C'est aussi une personne qui m'inspire. Donc tu vois, je voulais te redonner d'autres personnes à qui interviewer, mais voilà. Et donc du coup, à regarder ce film Patient. Moi, ce film m'a beaucoup bouleversé parce que je revis beaucoup de choses que j'ai vécues en centre de rééducation, ainsi de suite. Des gens qui réussissent, des gens qui réussissent pas. Et lui, en question, bah, il a cru en lui, et c'est ce qui fait qu'il marche aujourd'hui. Ouais. Parce que avant il était alité et il pouvait plus marcher.
OK.
Donc voilà, c'est un peu son histoire. Je te conseille de le regarder, c'est un film très très beau.
Bah écoute, je prends toutes tes recommandations, puis je avec précision et assiduité. Merci infiniment Mathieu, je pense qu'on aurait pu refaire le monde encore quelques instants. Écoute, moi je me suis régalé de toutes les thématiques qu'on a pu aborder, vraiment de tous ces sujets sur lesquels à la fois que tu as conscientisé et sur lesquels je trouve que t'apporte une brique constructive et bienveillante sur beaucoup de choses, et je comprends qu'on te sollicite en entreprise, donc si vous êtes DRH, chef d'entreprise, et que vous avez envie de faire un petit séminaire avec quelqu'un de très inspirant et qui aura plein de choses sur le sujet, même si aujourd'hui c'était un peu décousu, j'imagine que tu viens avec quelque chose de
tous les sens, mais après il y a plein de thématiques vraiment.
Ouais, tu arrives avec quelque chose de plus construit.
On arrive, voilà, c'est... Il y a beaucoup de choses sur le handicap invisible qu'on fait en entreprise parce que ça touche beaucoup de gens qui et puis bah, il faut le dire aussi, hein, il y a aussi cette taxe qui est pris par les entreprises. Il faut 6% de personnes en situation de handicap en entreprise. Beaucoup de personnes ne le disent pas en entreprise. Donc j'interviens aussi là-dessus pour essayer de changer le regard, que ce soit auprès des managers, auprès des gens sur le handicap. Et voilà, après oui, c'est beaucoup plus construit et sur des thématiques bien précises. Après il y a du team building aussi qu'on fait.
Ouais.
Voilà, et après toute une com aussi en interne, et moi j'ai des partenaires aujourd'hui avec qui on a une histoire en fait ensemble sur 3 ans par exemple. Là je pense par exemple pour les prochains jeux de Paris, mais j'ai, avec mes partenaires, ce que je veux dire, c'est que quand j'interviens en entreprise ou quand je fais des partenariats avec les entreprises, l'objectif c'est pas de prendre un chèque et de dire je colle comme du sponsoring un message ou le logo de mon partenaire sur mon maillot. Pour moi, ça va au-delà de ça. C'est qu'est-ce qu'on doit transmettre l'un et l'autre, qu'est-ce qu'on doit s'apporter. Eux, ils ont quelque chose à m'apporter et moi, j'ai quelque chose à leur apporter auprès de leurs salariés, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment et à la fin la finalité pour moi, c'est que l'émotion qu'on a vécue sur Rising the Phoenix, et ben on va la vivre ensemble en entreprise avec les collaborateurs. On va apprendre à se connaître, on va échanger sur des thématiques, on va parler du cancer, du handicap, on va parler de performance, on va parler plein de thématiques différentes pendant 3 ans, et à la fin on va vibrer sur des émotions où au final on est là. Le sport fait vivre ça. On s'en moque de qui gagne et qui perd à la fin. Ce qu'on a envie, c'est quand on va voir du sport, on a envie de vivre les émotions avec les supporters, avec le public. Et au final, les sportifs, ils font un show. Et c'est pour ça que les Américains, ils ont très bien compris la chose. Ouais. On vient dans un stade pour vivre des émotions, où on prend les bières, où après on va sur les champs, et ainsi de suite. Ce qui réunit les gens à la fin, c'est on a réuni les gens autour d'un événement sportif. On a gagné ou perdu, mais on a vécu des émotions ensemble, et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui soude les gens. Ouais. Donc en entreprise, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de les amener sur un événement sportif. Il y a ma vie. Mais derrière, il y a aussi ce que j'ai pu traverser et de transmettre ça à des gens, de leur donner aussi peut-être un espoir et de leur montrer que c'est possible d'eux. J'aime beaucoup ça aussi. C'est des gens inspirants pour moi, c'est des personnes qui arrivent facilement à la fin de dire « mais pourquoi pas moi ?»
Ouais.
À chaque message, j'essaye en tout cas de... Quand j'ai essayé de transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est de me dire que lui, j'arrive à le convaincre que lui aussi, il est capable de faire de grandes choses.
Ouais.
Et qu'à la fin, ils ressortent à se dire, mais pourquoi moi aussi, je pourrais pas aller me lancer dans les Jeux Paralympiques, ou pourquoi moi aussi, je pourrais pas créer ma boîte, pourquoi moi aussi, je pourrais pas me lancer ce marathon que j'avais envie de faire depuis des années. En fait, bah, il fallait aller par étapes, on peut construire les choses. Mais voilà, c'est de donner ce petit premier élan. Et pour moi, je suis hyper fier si j'arrive à le faire. Et moi, c'est ce qui m'anime quand je vais dans des entreprises.
Bon, bah, clair.
Voilà. Bon, j'ai été encore très long, mais je non, pourrais parler trop long.
Non, mais c'est top. Tu vois, il faut prendre le temps de passer le message. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris. Si je mettrai de toute façon tous les liens dans la description, toutes les informations utiles, si jamais on veut te contacter ou passer, je sais pas, par la personne qui s'occupe de ça avec toi. Mais je mettrai toutes les infos. Et écoute, j'ai eu pas mal d'athlètes qui ont eu des sollicitations après le podcast, donc je te souhaite la même chose.
C'est très gentil.
Et de gens sympas, donc voilà, n'hésitez pas à le faire et on vous dit à très bientôt. Salut Mathieu et à très vite.
Ben merci beaucoup et salut les extraterriens.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !